Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Alors, Julie et moi, nous sommes arrivés de Grèce vendredi dernier. On est allé au Liban 2 semaines voir Mirella et sa famille, qui nous ont accueillis comme des rois, vraiment. Et puis, on a vraiment, vraiment apprécié notre voyage, tant au Liban que la Grèce. Mais je dois dire que j'ai vraiment eu un faible pour le Liban. Hein, le Liban, faut le dire, c'est le nord de la terre promise. Hein, Israël, c'est le sud. Le Liban fait partie de la terre promise qui a été promise à Abraham. Et c'était spectaculaire de voir cette partie-là. J'avais eu l'occasion de visiter la partie sud de la terre promise en 93. Et là, j'ai eu l'occasion de voir le nord et c'était magnifique. Voir finalement Tyr, Sidon, les 7 du Liban, voir toutes ces choses-là qu'on peut lire dans les Écritures, pouvoir mettre vraiment une topographie là, à ce qu'on lit. Hein, j'ai vu les atlas, mais c'est rien que de se promener proche du mont Liban, de la chaîne de montagnes du mont Liban, ensuite voir l'anti-Liban de l'autre côté, le Béka, la plaine entre les deux, toutes ces choses-là, c'est vraiment magnifique. Évidemment, le Liban, c'est un pays qui est remarquable, comme se plaisait Mirella à le dire, c'est un pays de contraste extraordinaire parce que tu as des choses qui sont anciennes, tu as des choses qui sont nouvelles, tu as des choses qui sont belles, fantastiques, tu as des ruines qui sont remarquables. Tyr, c'est une ruine, tant la Tyr maritime que la Tyr terrestre, c'est fantastique comme c'est beau. Évidemment, tu as toute la crise que connu le Liban les dernières années qui fait que il y a parfois des choses qui sont plus difficiles au Liban. Ensuite, Julie et moi, on est allés en Grèce pour une semaine. On a visité Athènes, on a visité Corinthe, on s'est promené un peu partout dans les îles. On a fait 3 îles grecques. C'était génial. Là aussi, j'ai pu, un de mes rêves d'enfance chrétienne, depuis 80, que je me suis converti en 83, pas longtemps après, j'ai vraiment commencé à apprécier l'épître, les épîtres aux Corinthiens. Alors, j'ai toujours voulu aller voir Corinthe. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu accomplir ce rêve-là pendant la semaine dernière. Enfin, c'était remarquable. Et de voir que je marchais là où est-ce que on s'est tenu, Julie et moi, devant le Béma. Le Béma, c'est le tribunal à Corinthe, où Paul s'était c'était placé quand il avait été jugé, parce que les Juifs de Corinthe s'étaient levés contre la prédication de Paul. Ils l'avaient amené devant le tribunal et on était debout où est-ce que Paul s'était placé pour être jugé devant le tribunal. C'était assez impressionnant. On a marché dans la rue principale où est-ce que Paul nécessairement avait dû marcher. Et ça a été remarquable. Aussi, à Athènes aussi, on est allé voir l'Agora, où est-ce que Paul a commencé sa première prédication. Vous savez, il avait été amené par les philosophes hein, pour parler de ce Dieu, de ce nouvel enseignement que Paul, mais en tout cas pour les philosophes, que Paul faisait. Et il l'a amené à l'aéropage, à l'Agora de l'aéropage. Et on était là. Puis là aussi, c'est une place que ça faisait des années que je voulais visiter. Puis j'ai pu voir ça par la grâce de Dieu. Ça a été un voyage qui a été rempli d'émotions fortes, vraiment fascinant. Ça l'a vraiment assouvi tant notre quête de beauté que notre quête de savoir. Puis ça a vraiment assouvi des aspects bien intéressants. Et donc, ce soir, je vais vous parler un petit peu d'un des thèmes que Paul a privilégié hein, dans ses enseignements. Et c'est drôle parce que la semaine passée, mercredi il y a deux semaines, on était chez Mirella et on faisait une petite étude biblique. Et puis, on a parlé de ce que je vais vous partager ce soir. Avant de commencer, je vais juste remettre ça au Seigneur pour qu'ensemble, on puisse vraiment être béni par le Seigneur sur le sujet qu'on va aborder ce soir. Père, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour tes richesses, tes bontés. Te rendre grâce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu proche, Seigneur Dieu, proche de nous. Tu es un Dieu qui est... Tu es notre Père, papa. Tu n'es pas juste un Dieu, tu es notre Père. Merci, Seigneur Dieu, de ta grâce, de ta bonté, de ta richesse, puis de l'enseignement que tu veux nous donner par ta parole. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, une des choses qui m'a frappé, je vous ai dit, je me suis converti en 83. Et peu de temps avant ça, mais en fait, quelques années avant ça, j'avais eu en cadeau un Nouveau Testament. Lors de ma confirmation, on m'avait donné un Nouveau Testament, puis je l'avais toujours gardé avec moi. Je le transportais dans mon sac d'école. Puis un jour, j'étais au collège, puis il y avait des temps d'études où il fallait aller à la bibliothèque puis lire, puis je lisais le Nouveau Testament. Ça, c'était peut-être un ou deux ans avant ma conversion. Puis j'étais tombé sur Luc, puis on va tourner là dans Luc, au chapitre 1. Quand vous vous souvenez de l'histoire où est-ce que le père de Jean-Baptiste, Zacharie va recevoir la prophétie de la part de l'ange, la prophétie selon laquelle il va avoir un enfant. Puis Zacharie met en doute ce que l'ange lui dit et Zacharie va être atteint de il ne va plus pouvoir parler pendant un bout jusqu'à temps que le bébé naisse. Et Zacharie, il va, lorsque l'enfant va naître, eh bien, il va se mettre à parler. Il va se remettre à parler. Et là, il va commencer à prophétiser un peu, ou en tout cas, à déclarer des choses de la part de Dieu sur l'enfant qui vient de naître. Et à partir du verset 74, hein, c'est vraiment là, ça commence à partir du verset 67, vous le lirez peut-être à la maison, le cantique de Zacharie, mais je veux qu'on puisse nous attarder. Hein, c'est sur ce verset-là que moi, je m'étais attardé quand j'étais au collège, en train de lire mon Nouveau Testament, j'étais assis, peut-être, j'avais peut-être 16 ans, et puis je lisais mon Nouveau Testament, puis j'étais tombé sur ces versets-là, et ils m'avaient surpris, ces versets-là, parce que je ne les comprenais pas. Et le verset dit ceci, « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » De le servir sans crainte. Dans ma jeunesse, j'allais souvent on l'appelait mon oncle, c'était pas un oncle direct, mais c'était un ami de la famille qui était chanoine à l'Église catholique. Ça veut dire un des grades hein, dans l'Église catholique. Et puis, M. Chanoine, en fait, on l'appelait M. Chanoine, on l'appelait pas mon oncle. Mais je le considérais comme un oncle. M. Chanoine, il nous racontait toujours des histoires. Des histoires qui n'étaient pas trop rassurantes hein, sur Satan, sur toutes sortes de choses comme ça. Puis, alors moi, j'ai souvent associé, en tout cas étant jeune, la foi chrétienne à des choses qui étaient très inquiétantes. Mais là, j'ai 16 ans, je lis mon Nouveau Testament, puis je tombe sur ce verset-là qui dit que je peux servir Dieu sans crainte. L'idée que je pouvais servir Dieu sans crainte, c'était nouveau. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je pense que c'est ça qui m'a commencé sur le chemin qui m'a mené quelques années plus tard à me convertir. En 83, je me suis converti. Et là, j'ai découvert. Et par la suite, 84-85, j'ai découvert de plus en plus Et ça m'a lancé sur une quête, de vouloir trouver comment ça se pouvait de servir Dieu sans crainte. Et le texte poursuit dans Luc en disant, « En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut et tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Ça, moi, j'avais plus l'impression, quand j'étais assis là, au collège, j'avais plus l'impression que ça me correspondait. Assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Dans le contexte, j'étais très porté vers la tradition de mes parents, le catholicisme. Et donc, j'allais à l'oratoire, j'allais faire des choses. C'est très important pour moi. Mais ça ne venait pas me chercher, ça ne venait pas assouvir. Hein, la crainte, puis ce que je ne comprenais pas de Dieu. Et je m'étais assez vite, je me suis tourné vers le Nouvel Âge, vers le bouddhisme, vers l'hindouisme, je me suis tourné vers toutes sortes de choses, vers même la sorcellerie humaine. Alors moi, je sors de ça, j'ai 16-17 ans, peut-être plus de 17 ans, je suis en train de lire ça, et je comprends à peine ce qu'on me dit. Puis je ne suis pas sûr, puis à ce moment-là, je lis ça parce que je cherche un réconfort, mais je me dis quand même agnostique à cette époque-là. Mais je me pose des questions. Et en 83, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'annoncer le salut. Puis là, je vais dire, OK, j'accepte ce qu'on m'offre, l'offre du salut gratuit, mais je ne comprends rien encore. Je sais que j'ai pris une décision de cœur. Je sais que c'est en 83, en automne 83, que j'ai pris cette décision-là. Mais je ne comprends rien. Puis je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre avant encore 84, 85, 86, que je vais commencer vraiment à comprendre ce que je lis quand je lis les Écritures, puis que quelqu'un commence à m'enseigner vraiment. Ça a été fondamental pour moi de me mettre sous l'enseignement de quelqu'un pour pouvoir faire du sens de toutes les données, parce que j'étais un avide lecteur. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, ben parce que j'ai en 83, j'ai quitté le Seigneur. Pendant un an et demi après ça, j'ai quitté le Seigneur parce que je ne comprenais rien, puis ça ne faisait aucun sens pour moi. Puis là, quelqu'un m'a mis au défi, oui, mais as-tu essayé de prouver que la Bible était vraie ou la prouve-moi qu'elle est fausse? Puis pendant un an après ça, j'ai tenté de prouver que la Bible était fausse. Au bout de l'année, mon cœur était ici parce que je ne voulais toujours pas me soumettre à Dieu. Mon intellect était là. J'étais déchiré entre les deux. Parce que mon intellect me disait que c'était vrai. Mon cœur devait accepter que c'était vrai. Mais ça ne me tentait pas pantoute. J'aurais voulu vivre comme je voulais, puis c'était comme ça. Fait que... Alors, j'ai tous ces sentiments-là, tous ces questionnements-là qui sont en moi. Là, 84-85, je commence à vraiment pousser la recherche. Puis là, à 86, je m'inscris à un collège biblique. 86, oui. Pour avoir plus de pour savoir c'est quoi ce livre-là, que je comprenne. Est-ce quelqu'un qui m'a expliqué? Puis là, ma croissance spirituelle a vraiment pris un essor pour que je comprenne ce que j'avais lu et que je ne comprenais pas. Mais une des quêtes dans ma vie spirituelle, ça a été comment servir Dieu sans crainte. Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu puis avoir une vie chrétienne qui a du sens, en pleine liberté. Et dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, 12, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et régulièrement, Paul va parler de la liberté. Au verset 17, il va dire, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, Là est la liberté. Et donc, Dieu nous appelle à une liberté. Et ça, je ne comprenais pas ça non plus. Parce que la manière qu'on m'avait enseigné tout jeune, puis même quand je me suis converti, il y avait toutes sortes de choses à faire. En quoi c'était compatible avec la liberté? Je me posais ces questions-là. Ça m'a pris du temps à les comprendre. Et l'idée, la notion de liberté, c'est quoi être libre? Ça a été comme un, pas un cheval de bataille, mais une quête pour moi de comprendre ce que ça voulait dire être libre. Je commence à comprendre à peine. Je commence. Ça va faire 33 ans que je me suis converti. Ça fait quasiment bientôt 30 ans que je suis dans le ministère. J'ai commencé jeune dans le ministère. Mais je vais vous dire que je commence à peine à comprendre ce que c'est la liberté et gloire à Dieu. Mais pour Paul, c'est très important. Paul, quand il a prêché à Corinthe, il en a parlé. Quand il va aller en Galatie, il va en parler. Il va en parler beaucoup aux Galates. Il va dire dans Galates 2, il va parler de ceux qui veulent épier la liberté, leur liberté. Pour Paul, c'est quelque chose qui est tellement précieux qu'il y a des gens qui vont venir, des gens qui sont contre la liberté, qui vont venir épier sa liberté. Dans 5.1, il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hey, puis quand tu lis le grec, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc, la liberté pour moi, servir Dieu sans crainte, la liberté. Puis, l'autre point qui était très important dans ma vie chrétienne, puis c'est le premier message de ma vie que j'ai prêché, c'est 1 Jean 3.1. Le premier message de ma vie chrétienne, de prédicateur que j'ai prêché, je me souviens, j'avais fait des petites introductions ici et là, puis mon pasteur m'appelle, on est mercredi soir, et il est peut-être, je devais être 17h, 18h, il m'appelle, il dit, Patrice, j'ai la gastro, je ne peux pas prêcher. Je dis, OK. Est-ce que tu veux prêcher? Ben, je dis, puis un tel. Ah, il dit, ils ont un gastro aussi. T'es-tu en train de me dire que il est 17h, je prêche à 19h, c'est le premier, puis là, je vais avoir, puis je capotais littéralement. Mais j'ai prêché, ça a été mon premier message. Je ne suis pas sûr que les gens ont compris ce que j'ai prêché, mais je me souviens que le passage, par exemple, c'était 1 Jean 3.1. Qui dit ceci. Hein, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Puis pour moi, dans ma vie chrétienne, les trois idées de pas de crainte, puis Jean va dire, il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Puis la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça a été trois aspects très importants dans ma vie chrétienne, parce que je me suis dit, Paul va dire, vous êtes appelés à la liberté. Laissez personne vous séduire et vous ravir de cette liberté-là. Pour Paul, c'est capital. Mais il va dire aussi, use pas de cette liberté-là dans 5.13 comme un prétexte pour venir n'importe comment. Puis ça, Paul va le dire, Pierre aussi va le dire, que la liberté ne soit pas un prétexte pour la méchanceté ou un voile pour couvrir la méchanceté. Il y a comme une balance. La liberté, c'est comme une balance en dire, oui, je suis libre, mais j'ai des responsabilités. Et c'est accepter, la liberté, c'est accepter volontairement les responsabilités. Paul va dire, je me suis fait esclave. Vous savez, dans l'Ancien Testament, un juif, normalement, s'il devenait l'esclave d'un autre, puis comment on devenait esclave, c'est que j'avais pas, il n'y avait pas de faillite à l'époque. La faillite, c'était, Je me mets l'esclave de mon débiteur, de lui à qui je dois de l'argent. Mais je ne pouvais pas être esclave de plus que 7 ans. La loi, par la loi, le plus que je, si je devais bien de l'argent, le plus que ça pouvait être, ma dette, c'est d'être l'esclave pour 7 ans. Après ça, mon maître devait me libérer. Ça, c'est la loi juive. Donc, tous ceux qui se disaient hébreux, en tout cas juifs, qui voulaient suivre le judaïsme, qui voulaient honorer la loi de Dieu, qui voulaient vivre selon la loi de Dieu, devaient libérer l'esclave, la 7e. Et là, je parle des esclaves juifs, évidemment. Les esclaves non-juifs, ça ne rentrait pas nécessairement dans ça, en tout cas. Pas nécessairement. Par contre, après 7 ans, si la personne, par amour pour son maître, voulait rester dans l'esclavage de son maître, il pouvait faire cette décision-là, il pouvait prendre cette décision-là en toute liberté. À partir de ce moment-là, il pouvait quitter son maître ou il pouvait rester chez son maître. Et s'il choisissait de rester chez son maître, il devenait un esclave d'amour. C'est-à-dire quelqu'un qui volontairement avait mis de côté son état d'homme libre pour devenir l'esclave d'un autre. Paul va utiliser un petit peu ce concept-là dans Romains. Puis il va dire que de rendre nos membres l'esclave de la justice. On est libre. On est appelé à la liberté. Parce que Dieu ne veut pas avoir des automates télécommandés. Pas avoir des drones qui agissent exactement comme Dieu veut parce que Dieu contrôle chacun de mes gestes, mes faits et gestes. Ce n'est pas ce genre de Dieu-là qu'on a. Le genre de Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui est parfaitement libre et qui a créé des êtres libres à son image. Mais là, on n'est pas parfaitement libre parce qu'on n'est pas omnipotent. On n'a pas toute capacité, on n'est pas. Hein? Même Dieu a certaines limites à cause de ses perfections. Par exemple, il ne peut pas mentir. Non, il y a une certaine limite. Il n'est pas libre de mentir, Dieu. Parce qu'il est impossible que Dieu mente dans Hébreux 6. Mais, en tout cas. Ouais. Mais comme Dieu est libre, parfaitement libre, il a créé des êtres, nous autres, et nous pouvons faire des choix. Et nous pouvons assumer les conséquences de nos choix. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est une grande responsabilité parce que la liberté vient avec un prix. Peut-être c'est pour ça qu'il y en a qui choisissaient l'esclavage. Parce que là, dorénavant, c'est le maître. Si je suis esclave d'un autre, c'est le maître qui assume les conséquences des décisions. Parce que ce n'est pas moi qui prends mes décisions, c'est un autre qui prend les décisions. Et c'est lui qui assume les décisions. Quand je suis libre, un homme libre, ça prend des décisions libres, mais ça assume les conséquences de ses décisions. C'est ça la beauté de la liberté. Et c'est ça que, tranquillement, en étudiant et en essayant de comprendre ce que ça voulait dire la liberté, j'ai commencé à réaliser que la liberté, c'était quelque chose de très... C'était un couteau comme à deux tranchants. Aujourd'hui, on pense à liberté, on pense souvent à anarchie. Sans loi, sans règle. Et ça peut être ça, la liberté. Ça peut être ça, mais jamais on va être libre des conséquences des actions qu'on va avoir portées. On va peut-être pouvoir s'en tirer assez longtemps, mais à un moment donné, ça va nous rattraper. Mais Dieu dit, regarde, sois libre, prends tes décisions d'homme et assume les conséquences de tes décisions. Et ça, c'est la beauté de la liberté, parce que là, je découvre la pleine mesure de la liberté. Ça veut dire, c'est pas faire ce que je veux, peu importe. C'est faire ce que je veux en assumant la responsabilité des choix que je prends pour. Et là, si je veux marcher avec Dieu, et là, ça va être, assume, prends les décisions librement pour être pour Dieu, dans un monde qui, somme toute, est contre Dieu. Et là, les décisions que je prends, je les prends librement. Et c'est ça que Dieu voulait. Il ne voulait pas des automates. Il voulait des gens qui soient librement pour lui. qui marchent avec lui, qui l'aiment, qui veulent, que quand Dieu dit oui, Dieu voulait que je dise oui, pas parce que j'étais obligé de dire oui, mais parce que librement je disais comme mon Dieu. Ça, c'est l'adoration. Pas comme si, ah non, pas encore, oui. C'est pas ça que Dieu veut. Non pas que ça soit de comme quelque chose de d'insupportable, mais comme de bon cœur. Dans la loi, les gens ont construit le tabernacle, ils ont donné de l'argent, ils ont apporté, et Dieu voulait dans la loi des gens qui donnent de bon cœur, librement, volontairement. C'est ça qu'il voulait. Et tout le long des Écritures, on voit comment Dieu aime et honore les gens qui sont libres devant lui. Jonas, quel bel exemple de liberté. C'est quoi que Jonas a fait? Dieu, il a dit, tu t'en vas là. Jonas a dit, non, je m'en vais là. OK. Vas-y. Je m'en vais là. Moi, je m'en vais pas pour pécher à Ninive. Oublie ça. Il n'en est pas question. OK. Vas-y. Grosse tempête. C'est vrai, épouvantable. Écoute. Grosse tempête. Julie et moi, on est à Byblos. On embarque avec Mirella dans un petit bateau. Puis on va aller voir Byblos. Byblos, c'est de là qu'est parti l'alphabet. C'est de là qu'est parti. Les premiers à avoir écrit avec l'alphabet, c'est de Byblos. Les premiers à avoir inventé le papier, le papyrus, c'est de Byblos. C'est vraiment une ville historique importante, l'une des plus vieilles villes encore en existence, 5000 ans. C'est vraiment une ville importante. Puis on est là, on part en petit bateau. Puis le gars dit, oh non, on va faire un petit tour. Puis mais là, quand passer le port là, de Byblos, là, le bateau y allait vite. C'était épouvantable, c'était vraiment là. Ça tapait, mon ami. C'était. OK, on est venu de revenir. Hein? Mais là, tu es dans une coquille de noix comme ça. Jonas, c'est dans la coquille de noix. Et là, la tempête pogne, tu sais. Là, tous les marins sont inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Là, les marins, ça fuit. Là, ils tirent au sort. Finalement, ça tombe sur Jonas. Ils disent, oh, oui, Jonas, c'est mon Dieu, là, c'est de ma faute. Là. Jetez-moi à l'eau, je vais mourir, ça va être fini. La liberté de Jonas de dire, il est même prêt à mourir pour sa décision. Il ne veut pas aller prêcher aux Ninivites. Il sait, il a lu les prophéties, il sait que Ninive va venir dans quelques années plus tard, va venir détruire Israël. Lui, ça n'étonne pas. Au moins, si Dieu l'a détruit là, les autres prophéties ne se réaliseront pas. Il ne veut pas y aller. Il sait, c'est pour son peuple, il ne veut pas, absolument pas, aller prêcher à Ninive. Vraiment, c'est des acharnés, c'est des gens qui étaient d'une violence extrême. Il sait qu'ils vont venir détruire Jérusalem. Non, je ne vais pas. Jetez-moi le père de ce bord, on va mourir là, ça va être fini. Mais je n'irai pas prêcher. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il l'espérait? Non. Il y a même un poisson. Le gars est en rébellion ouverte contre Dieu à cause qu'il aime son propre peuple. Il est en rébellion, mais Dieu ne le laisse pas mourir là. Non. Dieu va honorer la pleine liberté que Jonas fait en se voulant être prêt même à assumer complètement sa décision d'être jeté par le bord et de mourir là. J'oublie ça, là. T'es en pleine Méditerranée, là. Il y a une tempête. C'est sûr que si tu jettes par le bord, tu meurs là, là. Mais il n'ira pas prêcher à Ninive. Il tombe à l'eau. Ouh! Le poisson qu'il avale. 3 jours. Il le ramène, il leur crache l'air. Le Jonas, c'est comme, OK, il va aller prêcher à Ninive. Là, Dieu le rappelle. Tu vas-tu aller prêcher à Ninive? OK, il va y aller. Il fait aucune essai. Il n'y a pas d'évangélisation explosive là-dedans. Là, c'est 40 jours, tu meurs. Il a vraiment été très clair avec Ninive. 40 jours, la ville est détruite, c'est fini. Pas essayer de l'appel, pas aucun appel à la repentance, pas aucun essai de les convaincre. Non, 40 jours, c'est fini. Pour ça, il est allé bouger sa colline, il attendait que Dieu détruise la ville. Il a attendu. Il n'était pas question. Lui, il ne voulait pas qu'il se convertisse. Pas pantoute. Il était libre et il a utilisé sa liberté en pleine connaissance de cause. Dieu a honoré la liberté relative de Jonas jusqu'à même faire venir un poisson pour l'amener puis le cracher sur la terre. La liberté, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que, et c'est quelque chose qu'on craint. Ça nous fait peur d'être libre. Ça nous fait peur parce que des fois, on se craint nous-mêmes, on se dit, hey, je ne sais pas ce que je ferais. On craint nos propres décisions. Et on fait bien de craindre nos décisions parce que chaque décision a des conséquences. Tu jettes une pierre dans l'eau, ça va faire des vagues, peu importe. Puis tu ne sais pas ce que les vagues vont produire comme conséquence. C'est pour ça qu'on essaie tant bien que mal dans la sagesse de prendre des bonnes décisions pour qu'on puisse prendre, tu sais, savoir qu'est-ce qui va faire le moins de vagues, ou en tout cas le moins de vagues négatives dans ma vie et dans celle qui nous entoure. Mais la liberté, les décisions qu'on prend, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner au bout. C'est pour ça qu'on a un Dieu et qu'on peut s'en remettre à lui. Parce que si Dieu n'est pas en contrôle de mes décisions, il est souvent en contrôle des conséquences qui subviennent à cause des décisions, ou jusqu'à un certain point, en tout cas. Dans sa miséricorde, il peut empêcher certaines conséquences négatives arrivent. Des fois, non. Mais c'est Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. La liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de terrible, mais quelque chose d'extraordinaire. Tellement extraordinaire que Dieu a été prêt de mettre ça en jeu pour donner la liberté à Adam de prendre le fruit ou pas. Tellement extraordinaire que Dieu est libre, je vous l'ai dit tantôt. Et comme nous, Dieu assume les conséquences de ses choix. Adam croque le fruit. Il a assumé la conséquence. Il va s'incarner pour être, parce qu'il est sauveur, il est amour, il est sauveur. Il va venir sauver l'être humain. Conséquence de la décision de laisser Adam libre. Il va prendre ses responsabilités, Dieu. Pourtant, il est omnipotent. Non, quand il dit quelque chose, il va le faire. Il va assumer les conséquences de ses décisions jusqu'au bout, jusqu'à l'incarnation et jusqu'à la mort de la croix. Il va assumer la conséquence de ses décisions. Il est très responsable, Dieu. Très responsable dans les décisions qu'il a prises. Les anciens théologiens disaient que Dieu avait deux puissances, ou deux sortes de puissances, d'omnipotence. Il y avait l'omnipotence absolue, puis l'omnipotence, faute de meilleur terme, ordinaire. Qu'est-ce que ça voulait dire, omnipotence absolue? C'est qu'avant de décider quoi que ce soit, dans l'éternité, là, avant de décider quoi que ce soit, Dieu aurait pu décider n'importe quoi. Ça, il était omnipotent vraiment, complètement. Il n'y avait rien, là, il y avait juste lui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité était là, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, la Trinité. Rien créer pantoute, ou créer l'univers qu'on a, ou créer n'importe quel univers possible. Ça, c'est la puissance absolue. Mais une fois que Dieu s'est engagé dans une voie, là, c'est l'omnipotence ordinaire qu'on appelle, ou ordinata, je ne sais pas comment traduire ça en français comme il faut, là. Mais qui va ordonner les choses. C'est-à-dire qu'il va assumer la conséquence des choix qu'il a fait de créer l'univers comme il l'a créé, puis il va vivre avec. Parce que juste Dieu qui peut assumer les conséquences des décisions de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut dire à Dieu, tu ne fais pas ça. C'est ça. Pas personne, il n'y a pas une créature qui va dire à Dieu, tu ne fais pas ça. Non. Il y a juste Dieu qui peut résister à Dieu. Alors, si nous, on est libres, ce n'est pas parce que par notre capacité, notre puissance, notre force, on a dit à Dieu, « Hey, je suis libre de toi. » Non, 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 c'est parce que Dieu me l'a donné que je suis libre. Dieu m'a donné la liberté, c'est pour ça que l'être humain est libre. Sinon, jamais l'être humain aurait pu être libre. Ça fait partie de la création, des décisions que Dieu a faites en disant, « Quand je vais créer l'être humain, je vais créer l'être humain à mon image, à ma ressemblance, il va être libre de prendre des décisions. » C'est fantastique. C'est des peurs, hein? Il faut l'assumer. Donc, vous savez, on a une grande liberté. On a une liberté extraordinaire de s'approcher de Dieu. C'est pas grand. Il n'y a pas grand temps. Tournez dans Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. Verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors là, on a des séraphins, parmi les plus élevés là, dans la hiérarchie angélique, là, qui sont devant le trône de Dieu. Ils se cachent les yeux, ils se cachent les pieds, puis deux ailes volent. Ils sont là, « Saint, 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 c'est extraordinaire. » Nous, Éphésiens 6, Éphésiens 3, c'est-à-dire, Éphésiens 3, En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On a la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans Hébreux 4, ça dit, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. » On peut s'approcher de Dieu avec confiance et avec assurance. Les séraphins les plus élevés dans la hiérarchie angélique sont devant Dieu en se cachant la face, en se cachant les pieds. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Nous autres, on peut s'approcher avec assurance. On tasse les plumes et on est là. Devant le trône de grâce. Devant le trône de Dieu. Sans pas avoir besoin de se cacher quoi que ce soit. On est devant Dieu. On est des enfants. Les anges sont des créatures extrêmement puissantes, extrêmement fantastiques, élevées en puissance, en gloire, en magnificence. On verra un ange, on voudrait l'adorer tellement qu'il est fantastique. C'est ça que même les apôtres voient des anges, ils veulent tomber à genoux et les adorer. L'ange est obligé de dire, hey, lève-toi, là, ça suffit. Mais les anges même n'ont pas la liberté de s'approcher devant le trône que nous, que moi et vous avons. Voyez-vous comment on est libre? On n'est pas juste libre sur le plan terrestre. On est libre sur le plan céleste. On a une liberté de s'approcher avec assurance et avec confiance de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit de prendre des décisions, d'user de sagesse dans tout ce qu'on fait. Parce que les décisions ont les conséquences. Puis quand tu te donnes à quelque chose, tu deviens esclave de cette chose-là. Parfois, c'est excellent. Quand tu prends les décisions pour être esclave de la justice, tranquillement, ça devient de moins en moins évident enfreindre la justice. Parce que tu te rends esclave de la justice. Si tu te rends esclave du péché, prenez Pharaon. Pharaon, Dieu l'a remis à ses décisions, lui a endurci le cœur. Pourquoi? Parce que Pharaon avait passé une vie à endurcir son cœur, son propre cœur face à la vérité. Il y avait la vérité, comme dit Romains 1. Et il s'est détourné de la vérité et il a adoré la créature plutôt que le créateur. Puis à un moment donné, Moïse se présente devant lui, puis ainsi de suite. Il s'endurcit. Dieu le laisse aller à ses sens réprouvés. Il s'est livré lui-même à la réprobation de Dieu. Vous comprenez? Voyez-vous comment c'est puissant la liberté? Parce que les décisions que je prends maintenant, ou ce que je suis maintenant, c'est la somme, en tout cas une bonne partie, c'est la somme des décisions que j'ai prises dans le passé. Si je suis pas gentil aujourd'hui. Il y a de fortes chances que j'ai pris des votes d'édition qui m'ont amené là, dans le passé. Au début, peut-être c'est des réactions. Des décisions que j'ai prises face à des réactions ou comment j'agis face à ce que les gens m'ont fait. Je peux pas décider de ce que les gens me font, mais je peux décider de comment je vais réagir face à ce que les gens me font. Est-ce que je vais m'endurcir? Est-ce que je vais devenir comme eux? Ou est-ce que je vais rester noble et je m'endurcirai pas? Et donc, Dieu nous dit, « Hey, je t'ai laissé la parole de Dieu pour informer tes choix, pour t'aider dans tes choix. Tu as le Saint-Esprit maintenant qui est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. » Avec Julie, on a vu, on était sur l'Acropole, à Athènes, là, vous les avez vus. Ça, c'était un temple, un énorme temple. Bon, il y a plusieurs colonnes qui ont été détruites. On ne peut pas aller voir à l'intérieur, mais on a vu à l'extérieur. Dans les schémas, dans le temple, tu avais l'enceinte générale du temple. Tu avais la Naos, qui était le lieu très saint du Dieu en question. Tu avais le même genre de situation dans le temple juif, où tu avais le Hieron, l'enceinte générale du temple, et le Naos, le lieu très saint. Dans le temple juif, le lieu très saint, il y a juste le sacrificateur qui pouvait rentrer là une fois par année. Nous, quand je dis qu'on a une grande liberté, là, nous, on est un temple, on est un Naos, on est un lieu très saint. On n'a même pas besoin d'aller une fois par année. C'est même pas une fois par année, c'est même pas tous les jours. On est le lieu très saint. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pas nous qui rentrons dans le temple, c'est le Dieu qui est rentré en nous. C'est autrement. On a une grande liberté. On a une grande liberté et on a une grande responsabilité de comment on va utiliser notre liberté. Ce soir, il a fait 30 aujourd'hui, peut-être plus. C'est une journée d'été. Puis là, ce soir, on a décidé d'être ici. C'est une décision. C'est une décision qui est une bonne décision. Et c'est une décision positive qui va amener des conséquences positives. Tranquillement, avec les décisions que je prends, si je prends les bonnes décisions, il va y avoir des conséquences positives. Sinon, dans le monde qui m'entoure, au moins dans le caractère que je vais me forger par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, cette quête-là que j'avais assis au collège en train de lire le Nouveau Testament, de savoir comment je pouvais servir Dieu sans crainte, qui m'a amené à me poser des questions, qui m'a amené à considérer quand on m'a présenté l'Évangile, qui m'a amené à accepter l'Évangile et qui m'a amené dans une quête dans ma vie où est-ce que j'ai voulu chercher ce que ça voulait dire servir Dieu sans crainte, chercher ce que ça voulait dire la liberté de l'enfant de Dieu, chercher même ce que ça voulait dire être aimé par Dieu, vraiment aimé. Vous voyez quel amour on l'a eu dans 1 Jean 3:1 et c'est vraiment une expression de surprise que Jean utilise en grec. Vous voyez quelle étrange, quelle sorte d'amour. C'est inusité, c'est... Je ne comprends pas. Et cette quête-là m'a amené à vouloir comprendre ça. Je vais partager ce soir un petit peu de mes réflexions sur la liberté, sur servir Dieu sans crainte, sur vouloir connaître Dieu. Je vous encourage à réfléchir là-dessus et à dire, mais chaque décision que je prends, même si je les pense anodines, ça a une conséquence. Vous savez, dans les années 60, puis je vais terminer avec cette illustration-là, dans les années 60, il y a un météorologue, j'oublie le nom, là, ça vient de me sortir, qui était, ce soir-là, il était paresseux un peu, puis c'est un météorologue qui travaillait sur les modèles mathématiques des systèmes climatiques. Modèle météorologique des systèmes climatiques, c'est modèle mathématique. Vous savez, le système climatique, c'est un système hautement... Tout influence tout dans un système climatique. Et il le savait, mais ce soir-là, il était fatigué. Puis normalement, il rentrait, je ne sais pas moi, une dizaine de chiffres après la virgule dans l'ordinateur. T'sais. Donc, pour calculer là, qu'est-ce qui allait se passer dans les gros systèmes climatiques. Et ce soir-là, il s'est arrêté, je ne sais pas moi, à la quatrième ou au cinquième chiffre après la virgule. Et là, ça a donné quelque chose de complètement différent. Quand il rentrait 10 chiffres après la virgule, puis quand il rentrait 5 chiffres après la virgule, c'était deux systèmes climatiques qui n'avaient aucun rapport l'un après l'autre, l'un avec l'autre. Et quand il a calculé ce que ça voulait dire en termes de vent, de force de vent, la différence entre 5 chiffres après la virgule ou 10 chiffres après la virgule, c'était l'équivalent du battement d'aile d'un papillon. C'est venu à être appelé l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? C'est que le battement d'aile d'un papillon, et c'est l'illustration que ce météorologue-là avait donnée, un battement d'aile de papillon en Afrique peut causer un typhon ou un ouragan en Amérique du Nord. Évidemment, ce n'est pas juste un papillon, il y en a des milliards de papillons dans le monde. Là, mais c'est pour vous dire que même les choses les plus insignifiantes ont des conséquences dans le système climatique et ont des conséquences dans tous les systèmes comme ça. Même le battement d'aile de papillon. Qu'on penserait, moi je me souviens aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui on était avec mes nièces, puis on roulait, on faisait du vélo, puis là... Elles étaient assises, on était à Derby, où est-ce que c'est du vélo sur rail. Elles étaient assises, Julie puis moi, on pédalait, puis les deux nièces étaient à côté. Puis là, il y avait des papillons qui venaient, puis ça tombait sur elles. Puis là, les petites pattes graffinaient avec là. Ah, les papillons, tu sais. Mais tu vois, hein? Les papillons après aussi. Ah, tu étais peut-être assise avec ta soeur. Mais jamais on se douterait que l'aile de ce petit papillon-là, là, ça peut changer, avoir une conséquence sur le climat. Pourtant, le mathématicien en est venu à cette conclusion-là, le météorologue qui travaille sur les modèles mathématiques. Fait, ayez pas peur, ou en tout cas, aucune de vos décisions est anodine et sans conséquence dans toute la somme des choses de l'univers. T'sais. C'est pour ça que chaque décision est importante. Il n'y a pas de décision qui est anodine, qui est sans importance. Surtout pas si c'est une décision de marcher ou pas avec Dieu. C'est pour ça que la liberté est si fantastique, si dangereuse, si épeurante, mais si glorieuse. Parce qu'on n'est pas tout seul. Dieu va appuyer chaque bonne décision qu'on va faire. Si ce n'est pas dans le monde qui nous entoure, au moins dans le cœur pour former notre caractère. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce, Papa, pour la liberté que tu nous as donnée. Pour cette liberté qui nous permet de découvrir, ça veut dire quoi, marcher avec toi. Merci pour tout dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.